Le journal, Laura Dulieu.
Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, le Soudan et son avenir très flou après la destitution du président Omar el-Béchir. C'est au tour du chef du conseil militaire de transition de démissionner pour nommer un autre militaire. Les précisions de Bertrand Galichet avec nous en studio. Après 10 jours bloqués en mer, le navire humanitaire de l'ONG CI va pouvoir accoster dans le port de Malte. Un accord a été conclu entre 4 pays européens dont la France pour répartir les 64 migrants à bord. Et puis en ce 22e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, les doutes s'accumulent autour de l'enquête sur l'affaire Geneviève Le Guay, cette retraitée militante blessée à Nice après une charge de CRS. Le ministère de la Justice demande des explications au procureur de Nice. On y revient dans ce journal. Et puis cette semaine dans la Bulle Écho, Marie Viennot nous parlera de la guerre des taxes. Nouveau rebondissement au Soudan, le chef du conseil militaire de transition a démissionné hier soir pour nommer un autre militaire à sa place après la destitution du président Omar el-Béchir. Les manifestants ont d'abord réagi avec des scènes de liesse à Khartoum. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour.
Mais la joie des manifestants laisse place aux appels à continuer la mobilisation pour une transition démocratique rapide sans le conseil militaire.
Oui, un conseil militaire qui s'accroche malgré les manifestations et en dépit d'un certain flottement. La démission du chef de la junte et son remplacement par un inspecteur général des armées en témoigne. Le nouveau dirigeant soudanais, Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan, a commandé l'infanterie et a supervisé l'intervention des troupes soudanaises au Yémen aux côtés des Saoudiens. C'est donc un opérationnel au cœur de l'état-major de l'armée et sans doute plus fin politique, son prédécesseur ayant tenu moins de 36 heures au pouvoir. Ce remplacement express témoigne d'une certaine improvisation au sein des putschistes qui avaient annoncé un conseil de transition pendant 2 ans avant de rendre le pouvoir aux civils. Face aux protestations virulentes de la foule, les militaires avaient ensuite parlé de ramener cette parenthèse à 1 mois. Mais la rue soudanaise exige une administration civile tout de suite, ce qui place la junte devant un problème urgent. Comment trouver une personnalité susceptible d'incarner le pouvoir parmi une classe politique largement corrompue et discréditée, dominée par les islamistes? L'autre défi auquel les militaires soudanais vont devoir répondre rapidement est celui des relations avec l'étranger. Tant que l'armée reste aux commandes, la proximité avec les États du Golfe devrait se vérifier. En revanche, l'instabilité de la situation préoccupe le reste de la communauté internationale à laquelle la junte soudanaise a déjà demandé une aide financière pour limiter la crise économique. La révolte en décembre dernier était partie de la décision des autorités soudanaises de tripler le prix du pain.
Bertrand Galichet, merci. Le navire humanitaire Alan Kurdi va finalement pouvoir accoster à Malte. Le bateau de l'ONG allemande CI, bloqué en mer depuis 10 jours, vient d'en recevoir l'autorisation grâce à un accord conclu pour répartir les 64 migrants à son bord entre l'Allemagne, la France, le Portugal et le Luxembourg. Le Premier ministre maltais a précisé qu'aucun ne resterait à Malte. En revanche, pour le navire de l'ONG Open Arms, au pavillon espagnol et amarré dans le port de Barcelone, c'est le retour en mer qui pose problème. Depuis 3 mois, le gouvernement espagnol bloque le bateau et refuse qu'il retourne au large de la Libye pour continuer le sauvetage des migrants. À Barcelone, le reportage de Mélanie Nunes.
Sur l'un des mâts du bateau, des volontaires de l'association, marteau à la main, font de petites réparations. S'occuper en attendant de pouvoir rejoindre la mer, explique Gérard Canals, chef d'opération humanitaire.
C'est un bateau de 37 mètres. Il a reçu à bord au maximum 500 personnes pendant 3 jours. La dernière mission que j'ai pu faire, c'était en décembre, le 31. Nous sommes arrivés ici à Barcelone et depuis, nous demandons à sortir. Mais ils nous le refusent systématiquement. Ils nous reprochent d'avoir trop de personnes à transporter à bord. Mais c'est faux, il ne s'agit pas de trajet pour des passagers, mais de sauvetage en mer.
Près de la cuisine, des photos d'anciens migrants secourus.
Là, c'est une femme qui vient d'accoucher. Ici, on voit le capitaine qui tient dans ses bras un homme qu'on venait de sauver. On lui a donné l'un de nos t-shirts. Il y a des femmes, des enfants, beaucoup de mineurs non accompagnés, la plupart d'Afrique subsaharienne. Ils font la traversée à bord de bateaux pneumatiques très précaires. Mais il y a aussi des barques en bois, des petites, de 30 personnes, et ça monte jusqu'à 1100 personnes. Ces dernières sont gigantesques. Les conditions y sont terribles. Certains migrants partagent le même habitacle que le moteur. Ils sont exposés au gaz toxique. On a déjà retrouvé des personnes décédées, asphyxiées.
Marc est le capitaine du bateau.
C'est le désespoir. L'urgence, c'est de pouvoir sortir du port de Barcelone. En attendant, on planifie de nouveaux voyages.
une mission humanitaire au Liban et une autre en Grèce. Nous, marins, nous devons naviguer.
Aller sauver des migrants en mer coûte 200 000 euros par mois à l'association Lance-Marc. C'est presque autant que pour être amarré dans le port de Barcelone.
Et depuis 2015, date de la création de cette ONG, les humanitaires ont pu sauver plus de 60 000 personnes, alors qu'en 2019, l'association n'a pu en sauver aucune. En Afghanistan, les talibans ont annoncé le début de leur offensive annuelle de printemps. Aucune pause dans les combats donc, même si des pourparlers de paix ont lieu entre les États-Unis et les talibans. Ces derniers ont d'ailleurs accepté pour la première fois de s'entretenir prochainement avec des représentants du gouvernement afghan. Les précisions de Siona Ghezali, correspondante RFI à Kaboul.
Notre devoir djihadiste n'est pas encore terminé, écrit le porte-parole des talibans dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Le groupe armé annonce ainsi le début de l'offensive du printemps. Cette année, l'opération est baptisée Al-Fatah, la conquête ou la victoire éclatante. Sur le terrain, les combats n'ont jamais vraiment cessé. Depuis quelques années, les violences ne s'arrêtent pas durant l'hiver, mais les attaques sont moins nombreuses en raison des difficultés à se déplacer. L'annonce des talibans intervient à 3 jours du nouveau round de pourparlers entre les États-Unis et les représentants du groupe armé à Doha au Qatar. Pour la première fois depuis le début des discussions bilatérales qui ont commencé l'année dernière entre les États-Unis et les talibans, ces derniers ont accepté de rencontrer certains membres du gouvernement, à la condition qu'ils s'expriment à titre individuel, ont-ils précisé. Les insurgés considèrent illégitimes les autorités afghanes qu'ils qualifient de marionnettes aux mains des Américains. Malgré les discussions, les combats sur le terrain continuent. Ils se sont même intensifiés ces dernières semaines dans plusieurs provinces du pays. Le contrôle ou l'influence qu'exercent les talibans sur près de 50% du territoire leur donne une position de force indéniable à la table des négociations. Le mois dernier, les autorités afghanes ont-elles lancé l'opération Khalid, nom donné à l'offensive des forces de sécurité afghanes contre les insurgés.
En Syrie, plusieurs raids aériens ont été menés par Israël la nuit dernière. Des raids sur une position militaire à Misyaf, dans la province de Hama. L'agence de presse officielle syrienne fait état de 3 blessés parmi des combattants. Et de son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de morts parmi des combattants iraniens et de 17 blessés parmi les forces du régime syrien. C'est une bataille mondiale qui est lancée pour savoir qui sera le prochain géant de la 5G, cette technologie qui sera, après la 4G, la 5e génération de normes pour réseaux mobiles. La Corée du Sud est devenue, il y a 10 jours, le premier pays au monde à lancer une couverture 5G nationale. Mais la Chine et les États-Unis sont également dans la course. Et à la Maison-Blanche hier, le président Trump a dévoilé un plan pour que l'Amérique ne se fasse pas doubler. À Washington, Grégory Phillips.
Donald Trump promet que la 5G améliorera la vie de tous les Américains, y compris de ceux qui vivent dans les zones rurales. Et pour cela, le gouvernement fédéral débloque une enveloppe de 20 milliards de dollars pour inciter les opérateurs privés à avancer plus vite vers cette technologie et à couvrir à terme la totalité du territoire des États-Unis. La 5G, on le sait, apportera des transformations majeures avec par exemple les objets connectés, les hôpitaux reliés entre eux ou encore les voitures autonomes qui pourront circuler grâce au réseau. Mais les Chinois lancés dans la course depuis 2013 ont une longueur d'avance grâce notamment au géant Huawei qui ici inquiète. Le Pentagone par exemple considère que la 5G est un enjeu de sécurité nationale et qu'il faut tout faire pour empêcher le géant chinois de s'implanter aux États-Unis afin d'éviter des risques d'espionnage. C'est aussi pour cela que la Maison-Blanche accélère la cadence. La 5G est déjà testée dans quelques villes américaines. Elle devrait se développer rapidement à partir de 2020.
Grégory Phillips. Un acte 22 des Gilets jaunes pour la première fois sous le coup de la loi anti-casseurs promulguée cette semaine. Et ce samedi, c'est la ville de Toulouse qui devrait rassembler le plus de manifestants. Malgré une mobilisation en baisse, les Gilets jaunes ont promis une nouvelle grande journée de manifestation pour samedi prochain. Et à propos de l'affaire Geneviève Leguet, cette retraitée militante d'attaque blessée après une charge de police à Nice, c'était lors d'une manifestation des Gilets jaunes le 23 mars, le ministère de la Justice exige des explications au procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, pour sa gestion de l'affaire. Jean-Michel Prêtre qui devrait être convoqué par le procureur général d'Aix-en-Provence, puis la ministre de la Justice décidera de la suite. Mathilde Lemaire.
2 jours après que Geneviève Leguet, 73 ans, avait eu le crâne fracturé, le procureur de Nice, en conférence de presse, avait dit avec aplomb « On en est sûr, l'analyse des images de la manifestation pixel par pixel montre qu'elle n'a pas été touchée par les forces de l'ordre. » Finalement, quelques jours plus tard, il finira par reconnaître que c'est bien le geste d'un policier qui a valu sa chute à Madame Leguet. L'avocat de la militante réclame alors la démission du procureur et le dépaysement de l'affaire. Sa deuxième demande de dépaysement pourrait bientôt aboutir. Il faut dire que les soupçons autour de cette enquête s'accumulent. Elle avait été confiée confiée dans un premier temps à une policière qui n'était autre que la compagne du commissaire ayant ordonné la charge. « Je ne vois pas de problème à ça », avait dit le procureur. Une plainte est aussi déposée pour subornation de témoins après la visite des policiers à la septuagénaire à l'hôpital. Cette affaire n'est pas la seule qui embarrasse Jean-Michel Prêtre. En décembre dernier, il a vu son bureau et sa maison perquisitionnés dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet national financier pour corruption et trafic d'influence au sujet de la succession du palais niçois du Negresco. Le procureur de Nice a vu alors son autorité affaiblie au sein de l'institution. Lui qui, il y a 2 ans, recevait la Légion d'honneur pour sa gestion judiciaire après l'attentat de la promenade des Anglais.
Mathilde Lemaire. Alors que l'Assemblée nationale a voté cette semaine une taxe sur les activités numériques et que le Premier ministre a évoqué l'exaspération fiscale des Français, la Bulle Écho se penche sur la guerre des taxes, une guerre mondiale. Marie Viennot.
For to tax us till we bleed is a politician's creed.
Cette chanson irlandaise est une chanson contre la taxe sur l'eau. Cette taxe a été introduite par le gouvernement irlandais après la crise quand l'Irlande était sous assistance financière de ses voisins. Jamais alors, l'Irlande n'a pensé à augmenter son taux d'impôt sur les sociétés. Et quand Bruxelles a condamné Apple à verser au Trésor irlandais 13 milliards d'euros, au début, le gouvernement irlandais n'a pas voulu de cet argent. Mais pourquoi refuser 13 milliards d'une entreprise qui les doit et n'aura aucun mal à les payer ? À cause de la guerre des taxes. On parle beaucoup de risque de guerre commerciale, la guerre des taxes est réelle, mondiale, continue. Pour ne pas effrayer, on ne parle pas de guerre, mais de compétitivité fiscale. Comme si les pays étaient des entreprises et les entreprises des chalands cherchant le meilleur taux d'imposition. En 40 ans, cette guerre a permis de diviser par 2 le taux d'impôt sur les bénéfices des entreprises dans le monde entier. Dans le même temps, les taxes sur la consommation ont fait l'exact chemin inverse. Elles ont doublé et tournent autour de 20% en ce moment. Il y a là sans doute une réserve d'exaspération fiscale dans les pays où, comme en France, les recettes des États reposent de plus en plus sur les individus et de moins en moins sur les entreprises. Quoi qu'en auront dit les grands débats, cette tendance va se poursuivre. La baisse du taux de l'IS, l'impôt sur les sociétés, vient de passer aux États-Unis. Elle est au programme en France pour 2022, en Argentine, en Belgique, en Australie, au Royaume-Uni. L'heure n'est pas à l'armistice et dans cette guerre des taxes, l'Union européenne n'est pas un terrain de coopération, c'est un champ de bataille.
Il est à nos yeux inacceptable de voir que les opérateurs numériques...
Bruno Le Maire défend la taxe sur les activités numériques à l'Assemblée nationale cette semaine.
Grâce à nos données personnelles, alors que leurs profits sont beaucoup moins taxés que ceux de nos PME ou de nos TPE.
Irlande, Suède, Danemark et Finlande ont bloqué le processus européen. La France part finalement seule à l'assaut des GAFA. C'est une question de justice fiscale entre entreprises, dit le ministre des Finances français, et il a raison. Mais cette injustice entre petites et grandes entreprises n'est pas nouvelle et elle n'avantage pas que les entreprises du numérique. En moyenne, le taux d'imposition réel des grandes entreprises en France est de 18%, c'est 24% pour les PME. 6 points d'écart. Vous allez dire, tiens, mais ces chiffres n'ont rien à voir avec le taux d'impôt sur les sociétés qui est encore de 33,33% en France. Eh oui, parce que la guerre des taxes se mène sur 2 fronts. Le taux et la base imposable, c'est-à-dire ce à quoi ce taux s'applique. Niche fiscale, prix de transfert, filiales dans les paradis fiscaux, bénéfices réfugiés derrière des sociétés écrans, les multinationales ont 1000 moyens de réduire aujourd'hui leur base imposable. Quand on en tient compte, le taux d'imposition réel des grandes entreprises sur les bénéfices tombe à 7,7% en France, 17,8% pour les PME. La France n'est pas l'enfer fiscal que l'on dit pour les entreprises, c'est un enfer relatif, car à côté, il y a, c'est vrai, toujours plus paradisiaque. La guerre des taxes n'est pas finie, mais on discute maintenant d'une trêve, ce qui est historique. L'idée de revoir complètement les règles de taxation des multinationales, quelle que soit leur activité d'ailleurs, fait son chemin. L'OCDE espère avoir un mandat politique pour cela au G20 d'Osaka ce printemps. Il y a beaucoup d'hypocrisie et de non-dits dans les discussions, mais les États ont dû reconnaître un fait important. Ils ne maîtrisent plus la guerre des taxes qu'ils se sont lancées. Cela se voit, se sait, nourrit l'exaspération et les mouvements anti-impôts en Irlande comme en France ou ailleurs. C'est déjà une avancée de l'avoir remarqué.
« Et la météo pour finir cet après-midi, du soleil sur une majeure partie du pays. Un ciel instable à prévoir en revanche dans le nord-est de la France et sur la Corse où des averses orageuses sont prévues. Pour les températures, vous aurez 15 à La Rochelle, 21 à Perpignan, 12 à Paris, 10 à Strasbourg et 19 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Benjamin Ducy.